J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Et les compagnies ont fait l'engage, en combinant les deux, ben, je suis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
C'est lors de votre émission qui vous donne l'opportunité de vous exprimer sur des sujets à la une de l'actualité. De plus en plus, des officiels congolais en séjour à l'étranger sont victimes d'agressions. Les témoins rapportent qu'il ne s'agit plus seulement des personnalités publiques ou leurs proches, mais également des simples citoyens soupçonnés de soutenir le pouvoir en place. Selon les témoignages de certaines personnes agressées ou des associations qui revendiquent certaines attaques, les assaillants s'insurgent contre la gestion des affaires de l'État en RDC. Quelle est votre réaction face à cette situation? Nous aurons deux invités, les 30 premières minutes. Vos avis seront commentés par M. Luc Lutala, qui est expert en résolution des conflits. Et les 30 dernières minutes, nous recevrons le professeur Ngoma Binga, qui est politologue. Pierre Lamézi et Clovis Luboula, sous la supervision de Nicole Ngata, réalisent l'émission. Alain Goy est à la mise en onde de la présentation. Marie-Chantal Lumba.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapitaine.
Notre premier invité est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Luc Lutala.
Madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté de pouvoir échanger avec nous pendant les 30 premières minutes. Nous allons parler de ce phénomène qui est constaté depuis un certain temps. Il faudrait dire qu'il était latent pendant la période de transition de 1+4 et a pris de l'ampleur pendant la campagne électorale de 2006. Et actuellement, on peut dire que ce phénomène a atteint son paroxysme. Monsieur Luc Lutala, je vous invite d'avoir à suivre une première série d'auditeurs, ceux qui veulent déjà donner leurs avis, qui veulent participer, commenter la situation actuelle. Et bien sûr, tous ceux qui veulent participer, ils n'ont qu'à composer le 081-890-69-69, le 081-890-69-69, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou encore poster leur avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs qui porte le logo de Radio Okapi. Nous avons déjà Israël de Kananga qui est en ligne. Bonjour Israël.
Bonjour Marie-Chantal.
Nous en avons entendu parler ce phénomène où des Congolais, des officiels congolais en séjour à l'étranger sont victimes d'agressions. Selon les témoignages de ces personnes agressées, disent que les affaires s'insurgent contre la gestion des affaires de l'État en RDC. Et dites-nous quelle est votre réaction, Israël.
Ok, je trouve qu'il y a un problème politique congolais qui fait qu'il y ait cette agression du FECO. Je trouve après, madame. Monsieur le ministre Ntambwe et Moïmounda ont été en Belgique, lorsqu'ils ont passé, je crois. Les autorités belgiques avaient pris bien charge de ces autorités congolaises qui étaient en Belgique. Et moi, je trouve que c'est un problème politique du fait que les politiciens congolais ne veulent pas faire que dans la vérité, communément appelé les gens de l'opposition, qui sont tellement à la suite d'agression du côté de. De Belgique ou à l'extérieur des pays.
Mais
si
vous,
on doit que le gouvernement congolais prenne la sécurité de ces personnes, même s'ils sont à l'étranger, conformément à l'article 50, 52 de la Constitution du 18 juillet 2006. Sinon, ça sera le gouvernement des responsables.
S'il vous plaît, Israël, je ne vous comprends pas très bien. Vous êtes en train de dire qu'il y a des officiels qui sont allés dernièrement en Belgique et vous souhaitez que le gouvernement congolais puisse assurer leur sécurité en Belgique, c'est ça?
Oui, madame.
Bon, mais ça c'est votre proposition. N'oublions pas que chaque État est souverain et que chaque gouvernement assure la sécurité des personnes et de leurs biens dans l'État. Mais c'est votre point de vue. Merci, Israël de Kananga. Et vous pensez qu'il y a un problème politique qu'il faudrait à tout prix résoudre. Fidèle, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Allô, Fidèle?
Allô?
Là, on a vraiment des problèmes avec la liaison téléphonique de Fidèle qui se trouve ici à Kinshasa. J'espère qu'il est en train de nous suivre pour qu'il puisse nous donner son point de vue, son avis concernant ce phénomène qui est constaté. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient connectés sur www.radiocapi.net ou carrément en FM. Si vous êtes à l'étranger, il suffit de composer le 081 ou 199 69 en mettant bien sûr le préfixe plus 243. N'oubliez pas le plus 243. D'ailleurs, vous avez l'habitude de communiquer avec nous ou de communiquer avec vos proches qui vivent ici en RDC. Nous prenons Franck qui se trouve à Vienne. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Marie-Chantal.
Oui, Franck, nous vous écoutons. Vous êtes à Vienne, donc à l'étranger. Vous connaissez ce phénomène. Dites-nous, quelle est votre analyse?
Bon. Si vous dites que je connais ce phénomène, c'est vrai en partie, mais moi, je ne suis pas parmi ces gens qui agressent. Je peux seulement dire que c'est vrai que pour le moment, la situation, le phénomène des gens est indescriptible. Il y a beaucoup d'enjeux qui font que les gens arrivent à agir jusqu'à ce niveau. Personnellement, je trouve qu'il faut que nos gestionnaires en place au Congo tiennent aussi compte d'un certain nombre de revendications de ces Congolais de la diaspora, pas seulement de l'Europe, de l'Amérique, mais de ces Congolais qui sont en dehors de leur pays. Il y a un certain nombre de choses qu'ils sont en train de revendiquer. Mais seulement, je me rends compte qu'ils ne sont pas bien écoutés auprès des instances dirigeantes. Alors, quand par exemple, on suit ce qui se passe sur place, on voit comment les autres sont malmenés, sont traités, et qu'on revoit les mêmes personnes arriver ici, il y en a qui se disent, si eux ne savent pas respecter les gens là-bas, pourquoi eux, on doit les respecter aussi? Ça, c'est ce que j'entends souvent d'un côté. Mais moi, personnellement, je dis, dans tout cela, il faut savoir présenter la liste de ces revendications et aussi se trouver une manière de le présenter. Donc, si nous critiquons la manière brutale de faire de chez nous, moi je ne peux pas reposer que d'ici où nous sommes à terre étrangère, qu'on applique la même méthode. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec certains phénomènes, soit d'agression, soit d'humilier, mais on peut, par exemple, se mettre en groupe à lui présenter des revendications quelque part. Alors, ça devient difficile parce que même au sein de ces gens qui font tout ça, il y en a qui disent, il y a des infiltrés du pays, on envoie des gens qui pour venir opérer, aller agresser. Alors, on ne sait plus dire exactement qui fait quoi à travers ce phénomène-là. Je crois que c'est plus seulement à voir à partir d'ici, mais il y a aussi des ramifications assez occultes. Donc, on nous apprend qu'on envoie des gens de là pour venir opérer ici. Et ces gens qu'on appelle combattants, dès qu'ils apprennent qu'il y a quelqu'un ou bien un groupe de gens qui sont venus du Congo pour venir opérer ici, en leur nom, c'est alors que ça devient difficile à décrire. Voilà un peu la lecture que j'ai faite personnellement de tout cela. Mais je dis en bref, il y a un certain nombre, une liste de mécontentement dont on doit tenir compte. Sinon, on va vers des situations vraiment sans ici, parce que même ici, même nous qui parlons ici, si ces gens-là savent que vous ne pouvez pas leur manière de faire de raisonner, on vous passe directement de collabo. Et quand ils savent vous localiser, ils peuvent venir vous adresser la nuit. Donc c'est quand même sérieux, même pour nous qui sommes ici. Pour ceux qui sont là-bas même, pour nous qui sommes ici.
C'est devenu une situation assez complexe et vous proposez qu'il y ait ce dialogue, qu'on puisse écouter, peut-être voir dans quelle mesure répondre à certaines de leurs revendications. Vous avez aussi condamné certains cas de violence qui sont survenus. Merci beaucoup, Franck de Vienne, pour toutes ces propositions et votre analyse de la situation. Il y a Tchitchin Gandou qui nous a écrit ceci. Les Congolais de l'étranger n'ont pas le droit de vote alors qu'ils contribuent beaucoup en termes de produit national brut. Beaucoup de gens font la politique pour se servir, c'est ainsi qu'ils réclament un vrai changement. De l'ange théophile, ils veulent que les choses changent au pays, que le gouvernement réalise leurs promesses. Et frère Emmanuel Munda du Katanga, ceux qui sont menacés le sont parce qu'ils n'utilisent pas un langage conciliant, encourageant, qui donne espoir. Nous allons reprendre Fidèle qui trouve ici quelque seconde, justement, cette fois-là, vous avez la liaison téléphonique s'est améliorée, et que, parce qu'on sentait qu'autour de vous, il y avait certaines personnes, vous étiez en train d'échanger avec d'autres gens, essayez un peu de vous concentrer pendant ces 3-4 minutes sur votre intervention sur les antennes de Radio Capi. Bonjour Fidel.
Bonjour Radio Capi.
Nous vous écoutons, quelle analyse vous faites?
Bon, je n'ai pas beaucoup à dire, mais seulement je suis un peu touché de tout ce qui est arrivé à nos autorités. Je suis dans un endroit où il y a un peu trop de bruit, d'accord, mais excusez, veuillez m'excuser. Je disais que l'agressivité faite à nos autorités à l'étranger est à condamner. C'est un complot en murmure. Ok. Un minuscule, un groupuscule de gens qui se regroupent pour repérer les autorités en mission, c'est déjà l'anguille sous roche. Et puis, j'arrive pas à comprendre, en tant que petit citoyen qui arrive en Europe et qu'on agresse dans cette phase-là, tout ceci, l'autorité de la place, même si je suis là, vous êtes vraiment au but,
donc vous condamnez ces actes d'agression, votre préoccupation, et vous reconnaissez que quand même il y a un problème qui persiste, et pourquoi il y a certains agissements.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup Fidel de Kinshasa. Nous allons donner la parole à notre invité pour qu'il puisse déjà commenter les premiers avis de cette série d'auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Loutala, vous avez suivi les avis de nos auditeurs. Certains condamnent ces actions, ces actes de violence. D'autres pensent que c'est à bout, donc ils estiment qu'ils ont peut-être utilisé tous les moyens. Maintenant, ils ont versé dans la violence pour se faire entendre. Nous avons aussi écouté Franck de Vienne qui a un peu décrit la situation. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui profitent de ce mouvement pour pouvoir mettre en place une certaine insécurité au sein même des Congolais qui vivent à l'étranger. Quelle est votre réaction, M. Luc Lutala?
Déjà, dans certains éléments, les compatriotes qui sont intervenus, on peut voir que les relations entre les officiels, derrière les officiels, les Congolais de l'étranger voient le gouvernement, c'est un peu la transposition exagérée, la transposition libérée des relations entre le gouvernement et les Congolais du pays. Alors, il faudrait se souvenir de trois éléments essentiels. Le premier élément est que les relations de tout le temps, depuis l'époque belge jusqu'à maintenant, il y a un fossé très 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 grand entre les gouvernants donc, et la population qui n'ont jamais réussi à partager un idéal, une vision avec la population. De cette carence d'une vision qui motive toute la population, il y a eu beaucoup de frustrés qui ont cherché à partir et donc qui sont allés en diaspora. Alors, parmi les gens qui sont en diaspora, vous retrouvez une portion très importante des frustrés, des gens qui ont fui leur pays parce que ce pays leur offrait en fait un avenir bouché, un avenir qui n'allait nulle part, si vous voulez, une prison. Alors, ils ont cherché à aller sous d'autres cieux pour essayer de se retrouver, de survivre, mais avec à leur intérieur cette frustration-là. Il va de soi, c'est la grande majorité, parce qu'il y a d'autres qui sont partis avec un idéal de réalisation, mais que ce soit ceux qui sont allés par frustration, ou que ce soit les Congolais qui sont en diaspora parce qu'ils sont allés de manière tout à fait régulière ou qu'il y avait des opportunités. Tous, ils se retrouvent en transposition de l'inconscient collectif congolais et qu'ils subissent un tout petit peu, si vous voulez, le reflet des conditions, des relations entre les gouvernants et les gouvernés, ce qui se passe ici, parce qu'ils auraient en fait souhaité revenir ici et ce qui fait qu'ils contribuent un tout petit peu aussi à ce qui se passe dans leur pays. Mais il se fait qu'ils continuent à être frustrés, qu'ils ne trouvent pas un dialogue sincère et franc. Il va de soi, le gouvernement a essayé pendant un moment surtout pendant, je pense...
Mais en créant un ministère des Congolais à l'étranger.
Absolument, et qu'il y a un dialogue qui a été amorcé, mais on retrouve au fond de ce qui a été amorcé un manque de rigueur, ça veut dire on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique d'ouverture envers les Congolais de l'étranger parce qu'ils n'ont jamais été consultés dans le fond sur les dossiers importants et qu'ensuite ils n'ont toujours pas le droit de voter et qu'ensuite ils se sentent plus ou moins exclus de leur pays. Et au-delà de ça, ils sentent toujours que même étant à l'étranger, le pays ne s'ouvre pas totalement à eux.
Mmh.
Alors, ce qui fait que il y a cette libération tout à fait normale, que vous retrouvez en fait un antagonisme qui est partagé, que le gouvernement se dit, ces gens-là ne nous comprennent pas, ces gens-là ils luttent contre nous, et donc que le gouvernement réagit d'une manière peu appropriée, et que eux aussi de plus en plus, leur frustration est renforcée, et qu'ils se disent, alors ici au moins on a le droit de manifester, étant donné qu'au pays on ne peut pas manifester, alors on manifeste. Mais lorsqu'on entrera en profondeur de notre inconscient collectif congolais, de tous les problèmes que nous gérons, on comprendra que si le gouvernement ne prend pas la mesure de l'enjeu, c'est un fossé qui va de plus en plus s'agrandir.
Mmh.
Et je pense que c'est la politique intérieure, la détermination d'un gouvernement à s'ouvrir à tous les Congolais qui sera la dernière solution à ce problème-là.
Et le fait que si le fossé continue à s'agrandir, est-ce que la violence sera encore plus forte?
En fait, il est presque sûr que lorsqu'on entre dans le monde émotionnel, la mesure de la victoire semble briller dans le reflet de la violence, ce qui est tout à fait faux. Parce que si en fait les guerres et la violence résolvaient définitivement les problèmes, le monde serait déjà en paix totalement.
Mm-hmm.
Mais on est entré dans une logique totalement irrationnelle, totalement démesurée, qui font que, de par le gouvernement, vous avez entendu quelqu'un dire que le gouvernement enverrait des gens là-bas pour aller agir et que ces gens-là seraient accueillis. Donc, de l'autre côté, ils ont l'information que maintenant le gouvernement veut agir dans l'illégalité et que eux aussi, dans ce cas, ne peuvent pas se baser sur la légalité pour réagir. Il est vraiment évident que la mesure de la violence va s'agrandir de plus en plus et qu'on va de plus en plus continuer vers ce fossé-là.
Est-ce qu'on peut aussi sentir qu'il y a aussi certaines informations qui peut-être ne sont pas bien relayées?
Effectivement, mais je pense qu'il y a des informations, il y a de l'intoxication, si vous voulez, de la transformation de l'information de part et d'autre, de la mauvaise exploitation ou de l'exploitation opportune des informations de part et d'autre. Mais il reste que une bonne perception des souffrances, parce que le gouvernement souffre de toute façon, mais les Congolais de l'étranger souffrent également de cette situation. Et que, à mon avis, c'est mineur, c'est la politique générale que le gouvernement va chercher à appliquer par rapport à cette situation qui sera déterminante pour désengager ou, si vous voulez, pour désamorcer cette tension qui est en train de vibrer dans l'air.
Monsieur Lutala, restez avec nous. Nous allons écouter une deuxième série d'auditeurs comme Indro, qui sera Lumbashi, Roli, Kisangani, et lire aussi quelques messages qui nous sont parvenus à travers pa@radiocapi.net ou des messages qui ont été postés sur notre page Facebook Parole aux auditeurs avec le logo de Radio Capi.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement du Royaume-Uni, du Suède, du Belgique, des États-Unis, des Pays-Bas, de Suisse et d'Allemagne.
Nous lisons d'abord ces deux messages, Serge de Lubumbashi. C'est une façon pour eux de s'exprimer. Peut-être que de cette manière, le gouvernement pourrait se pencher sur leur cas. Médard qui nous écrit ceci, ces actes prouvent l'immaturité démocratique des Congolais. S'ils ont à réclamer, qu'ils le fassent dans la légalité. Un avis que partage Benjamin Maswa de Butembo. Et Indro, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bonjour Indro.
Bonjour.
Nous vous écoutons Indro. Quelle est votre analyse?
Moi je suis totalement pas d'accord avec les intervenants qui viennent de dire que nos concitoyens de l'Europe n'agissent pas, il fallait passer par d'autres moyens. Parce que vous savez, avec tout ce que nous avons déjà, que nous Congolais, par des voies de désir, nous votons, nous envoyons des élus au Parlement pour nous représenter. Et moi, je pense qu'avec aussi les problèmes que les Congolais traversent, et avec toutes les difficultés que nous connaissons, avec l'égoïsme de nos dirigeants qui ne parviennent pas à comprendre que le peuple souffre, c'est ce qui pousse à nos concitoyens qui sont en Europe d'agir ici. Et moi, je pense que le peuple n'est pas écouté, le peuple, les avis de ce peuple n'est pas pris en considération. Et je pense que c'est ce qui fait après que nos concitoyens agissent de cette façon. Et moi, je pense que cette situation plus tard va être aussi entamée à l'intérieur du pays, comme vient de le dire notre intervenant.
Donc, vos craintes, c'est que cela puisse se reproduire à l'intérieur du pays. Et vous avez l'impression que les autorités ne vous écoutent pas. Merci, Indro de Lumbashi, de votre point de vue. Rolly, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Rolly Konda, étudiant à G1-3 IFAC de Kisangani.
Oui, votre point de vue.
Oui, mon avis est celui-ci. Je suis contre tout ce qui se passe à l'étranger sur nos autorités.
Mm-hmm.
Nous tous, nous savions que les élections n'étaient pas bien passées ou il n'avait pas eu de crédibilité. Sur ce, je demanderai à nos amis de diaspora d'être calmes, patients jusqu'à 2011 pour choisir d'autres dirigeants qui vont gouverner ce pays. Et aux autorités congolaises, ils savent bien que les Congolais de diaspora sont contre eux. Alors, s'ils veulent partir à l'étranger, il faut qu'ils vont au niveau de l'ambassade pour que ces derniers signalent les autorités de son pays. C'est comme si nos autorités ont le sentiment de voir les pays développés, ce n'est pas bien. C'est pas un pays, nos motivations, madame.
Merci, Rolly. N'oublions pas qu'il y a eu des ambassades de la RDC à l'étranger qui ont été aussi attaquées. Il y a Christophe Matata de Lumbashi qui nous écrit ceci. Ce sont des actes à condamner, mais le gouvernement doit chercher la source et amorcer le dialogue avec les Congolais afin de comprendre leurs soucis, car ils ne sont pas aussi fous pour pouvoir avoir pour poser ces actes. Michael Niemboué de Mbujimaï, pour mettre fin à toutes ces agressions, il faut donner aux Congolais ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la vérité des urnes des élections du 28 novembre 2011. Saint-Faurien, Safari, Aristide de Bukavu, je pense qu'il fallait que ces actes poussent nos politiciens à comprendre qu'il faut réaliser les promesses et restituer la vérité des urnes. Jean-Nic Johnson de Mbujimaï, c'est l'une des manières de se faire entendre, il serait mieux que l'on s'y penche pour comprendre réellement ce qui se passe. Toussaint Chimba de Lumbashi, je pense à mon avis que les auteurs de ces actes méritent d'être poursuivis et qu'on remonte aux commanditaires. Thierry Kitemé de Kiwanja, je pense qu'il faut que le gouvernement en place puisse dialoguer avec ces Congolais de la diaspora et qu'on trouve immédiatement une solution favorable avant que le danger n'arrive, car ces actes peuvent se répercuter ici en RDC et c'est une honte pour le pays et surtout l'image du pays à l'extérieur. Lionel Cartier, c'est pour eux une façon de réclamer leurs droits et de rappeler au pouvoir en place d'être capable de satisfaire la population et que nous puissions voir l'effectivité de la démocratie. Joseph Apollo de Bukavu, je pense que c'est une façon pour eux de dire qu'ils rejettent le pouvoir en place. Si tel est le cas, reconnaissons qu'il y a une crise politique et une crise de légitimité et trouvons des solutions. Bonjour Moïse.
Bonjour madame, c'est Moïse Mouillement de Guéville.
Nous vous écoutons Moïse.
Oui, moi je suis sur normal parce que la constitution de la RDC à son article 26 garantit la liberté de manifestation. Et pourtant, on a déjà su manifester pour réclamer quelque chose qui ne marche pas sur le plan politique. Les pouvoirs en place envoient des policiers pour réprimer les manifestants. Et les policiers qui sont censés encadrer les manifestants se permet de tirer à balles réelles sur les manifestants. On a fait des bombes à la climat jusqu'à l'événement de certains manifestants. Vous vous souviendrez que la marche des quelqu'un de Serge des mois en cours a été dispensée par la police. Jusqu'à cette fois qu'il avait eu une mort d'homme suite à des balles tirées sur les manifestants par la police et des arrestations des hommes ainsi que l'enlèvement de l'été victime du secrétaire général des FDR de Régis Lumbala.
S'il vous plaît, Maurice, par rapport à ce
sujet,
S'il vous plaît, Moïse, il faudrait qu'on puisse communiquer. Vous avez fait allusion à des morts lors de la manifestation du 16 février dernier. En tout cas, jusqu'aux dernières informations que nous avons reçues, il n'y a pas eu de morts. Il y avait des blessés, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Mais les morts, en tout cas, jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune information concernant les morts. Donc, vous êtes en train de dire que les manifestations, les libertés publiques sont réprimées, pas facile pour pouvoir s'exprimer, pouvoir manifester. Et vous pensez que le fait de ce qui se passe est en train, ce qui se passe à l'étranger, il y a, vous estimez que c'est une façon pour eux de pouvoir montrer leur ras-le-bol. Mais j'aurais bien voulu, parce que là, on n'arrive pas à vous suivre, Moïse, vers la réalisation de ce film. D'ailleurs, il y a une interruption sur votre ligne téléphonique. Peut-être nous pourrons revenir à vous plus tard. Jean, vous êtes ici avec Kinshasa, bonjour.
Ok, bonjour Marie-Chantal, bonjour parole aux auditeurs.
Nous vous écoutons, quel est votre avis?
Ok, moi je trouve que la réaction de nos compatriotes à l'étranger est normale suite aux événements que nous vivons ici dans notre pays. Mais la politique la plus facile pour résoudre cette crise qu'on décrit, c'est qu'on doit appliquer ce que nous appelons la diplomatie du terrain pour la résolution du conflit. Alors, pourquoi? Parce que quand je parle de la diplomatie du terrain, c'est-à-dire qu'il faut aller avec ses compatriotes, parler réellement, qu'ils s'expriment clairement sur ce qu'eux veulent. À partir de là, on va dégager. Mais sinon, si on reste toujours comme ça, les autorités vont là-bas et il n'y a pas une recette de crise, non, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut que nos autorités, qu'on puisse donner des délégués, soit le premier ministre, soit un ministre, quelqu'un, le ministre des Affaires étrangères, qu'il aille là-bas plutôt parler avec les Congolais de la diaspora. Et là, les pistes de solution se dégageraient pour que il ne soit plus agressif, comme dit le sommet de la page, que cette situation, que comme un auditeur, mon président, a dit, quoi, que si on ne trouve pas de solution, ça va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Mmh. Et là, donc, nos autorités, référent seulement ici à Kinshasa, ils auront du mal à aller à l'étranger, ils auront aussi du mal à aller à l'intérieur. Mmh. Donc, c'est un problème vraiment très sérieux qu'on doit prendre en compte
et trouver
une solution fiable et solide.
Merci beaucoup aux gens de Kinshasa. Nous allons redonner la parole à notre invité et aussi nous allons accueillir notre deuxième invité. Il s'agit du professeur Ngoma Dinda qui est politologue.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Luc Loutala, encore une deuxième série, les avis sont partagés, d'autres condamnent l'agression, mais reconnaissent que les revendications sont légitimes, ils souhaitent un dialogue pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe et mettre fin à ce cycle de violence qui risque de perdurer. Mais il y a aussi un auditeur qui a parlé de la sécurité, qu'est-ce qui pourrait être fait, parce qu'il a proposé que ces personnes soient sécurisées lorsqu'ils vont dans des pays étrangers. Est-ce que vous pensez que cela pourra atténuer quand même ces actions?
Oui, ça veut dire que c'est des mesures de stabilisation, comme on peut dire. Mais cette sécurisation serait que la collaboration entre la RDC et les pays soit plus franche et plus accrue et que les déplacements de ces personnalités se fassent dans le cadre des missions officielles. Autrement, ça va être difficile. Or, lorsque les gens partent en congé, ce n'est pas le gouvernement qui les envoie, ils partent eux-mêmes. Et donc, le problème va être assez difficile à résoudre de ce point de vue. L'autre chose, c'est la violence ne peut être encouragée d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne du gouvernement, qu'elle vienne de la population. La violence reste une violence condamnable et inutile en elle-même. Donc, elle ne peut être condamnée.
Oui. Il y a eu des actions qui ont été menées, par exemple, dernièrement, lorsque le président du Sénat avait été agressé, il y a eu des parlementaires qui se sont réunis pour pouvoir rendre, essayer de mener une mission et rencontrer le gouvernement dans lequel où le président du Sénat avait été agressé. Est-ce que vous pensez que ce genre d'action, si ça peut perdurer dans le temps, est déjà une piste de solution pour mettre fin à ces agressions et comprendre les réclamations de ces Congolais?
Leur réaction est tout à fait normale, mais lorsqu'on va dans le fond, on constate que c'est une réaction qui fouille d'aborder le fond. Ça veut dire on s'est en fait concentré sur l'immédiat, ce qui s'est fait, sur les effets, pas sur les causes. Il reste que ce problème, comme je l'ai dit, nécessite que l'on travaille dans le fond. Et le fond va engager un tout petit peu, je donne la première piste, que le gouvernement en place arrive à mettre en place une vision et qu'il va partager avec tout le gouvernement. Je signale qu'on a un peuple assez fort, assez grand, suffisamment énergique et qui peut absolument s'engager à soutenir la vision de grandeur du Congo. Le problème, c'est que le Congo, les Congolais n'ont pas l'impression d'aller quelque part. C'est comme s'il n'y avait pas une vision du futur. Et que, de l'autre côté, ce problème est renforcé par le fait que, pour les politiciens, eux, ils ont une vision. Mais une vision qui n'est pas partagée avec la population. Donc, résoudre le problème avec une centaine de Congolais de l'étranger ne résoudra pas tout le problème qui se pose maintenant. Parce que, il est impossible, à mon avis, de résoudre le problème seulement avec les Congolais de l'étranger sans le résoudre de l'intérieur, parce que les Congolais de l'étranger seront renforcés avec d'autres Congolais de l'intérieur qui vont immigrer. Donc, il faut travailler à deux niveaux, à mon avis.
Donc, à votre avis, il faudrait réouvrir une sorte de conférence nationale souveraine?
Absolument. On pourrait organiser, il y a plusieurs pistes, hein. Il y a vraiment plusieurs pistes qu'on pourrait exploiter. Mais c'est surtout la sincérité du gouvernement. Nous avons à travailler dans notre pays encore des choses comme avoir une vision claire, avoir une responsabilité, avoir une rigueur et savoir où est-ce qu'on amène la population. Il faudrait qu'on arrive à impliquer la population dans le devenir du pays et il faudrait... Je donne un simple exemple, madame. Imaginez qu'il y a exactement beaucoup d'opportunités et à ma connaissance, il n'y a pas eu... que le gouvernement a consulté les Congolais de l'étranger pour leur dire, par exemple, vous avez beaucoup d'argent, êtes-vous disposé à vous réunir pour investir, par exemple, dans les mines, par exemple, dans le pétrole, par exemple, dans tout autre secteur dans lequel on voit que des hommes d'affaires d'autres pays investissent. Et on sait tout le problème qui se passe derrière des contrats. Donc, à mon avis, il est question de faire une remise en cause à la fois du côté de la population et à la fois, surtout, du côté du pouvoir. Si cette remise en cause ne réussit pas, et je suis conscient que nous sommes des humains et que nous pouvons arriver à ça, et c'est sur ça, sur d'abord cette remise en cause, sur la compréhension des causes. Les causes font qu'on arrive à cet effet, parce que tout ce qu'on voit, c'est des effets. Cette remise en cause, cette autocritique qui permettra de dégager les pistes de solutions. Parce que ce problème, permettez-moi de dire encore ce point, est lié au problème de l'inconscient collectif congolais qui, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, n'a pas quitté le chemin d'une sensation de l'exploitation, ce qui fait que dans l'inconscient collectif du Congolais, on a trouvé le sentiment de l'impuissance, de frustration, de l'exploitation, et donc il y a beaucoup de colère, beaucoup, énormément de colère, et sur lequel on ne devrait pas se tromper par le calme apparent.
Restez avec nous encore quelques minutes, Monsieur Luc Loutala, le temps d'écouter Jean qui se trouve à Ouacha, en province orientale, et lire des messages que nos auditeurs nous ont envoyés.
Parole aux auditeurs.
Jean, bonjour.
Oui, bonjour, madame la journaliste, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kaki.
Je suis Jean
Costa, je vous appelle à Ouacha, dans la province orientale.
Allez-y, Jean.
Oui, à propos de l'agression de nos autorités à l'étranger, je me suis rendu compte que c'est un message. Alors, nos autorités ne doivent pas diaboliser cela. Elles doivent savoir que c'est un message que c'est d'avoir compte nous transmettre. Alors, le message c'est quoi? Les élections n'étaient pas seulement libres et démocratiques. Il y a eu réellement des irrégularités. Alors, il faudrait en tenir compte. À mon avis, il faudrait se retrouver autour d'une table pour partager les pouvoirs. Alors, tant que cette situation ne sera pas éradiquée, je vous dis, il y aura toujours des agressions pareilles. Alors, une question pour considérer, qu'est-ce que l'autorité ou bien qu'est-ce que le gouvernement congolais envisage pour éradiquer ce genre d'agressions?
Malheureusement, nous n'avons pas un répondant pour savoir, mais nous allons quand même nous tourner, parce que c'est un phénomène hein, qui prend vraiment de l'ampleur. Ça a commencé déjà pendant la période de transition, lors du 1+4, et avec la campagne électorale de 2006, il y avait déjà des cas qu'on était en train de répertorier, mais actuellement, vraiment, ce phénomène a atteint son paroxysme. Pour savoir ce que le gouvernement est en train de faire pour qu'on puisse réprimer ce phénomène, voir dans quelles mesures trouver des solutions, bien sûr, c'est le gouvernement qui pourrait envoyer un signal fort pour savoir ce que le gouvernement compte faire pour trouver des solutions. Néanmoins, pour les cas que nous avons eu à répertorier, que ce soit le président du Sénat ou bien d'autres autorités politiques, ils ont essayé à leur niveau, selon les cas, de pouvoir rencontrer les autorités du pays. Et d'ailleurs, il y a eu, par exemple, pour le cas de l'Afrique du Sud, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, d'autres condamnées, d'autres même ont été expulsées par rapport à ces agressions. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas. Mais en écoutant nos auditeurs, ils voudraient plus une solution globale pour savoir quelle est la politique du gouvernement pour pouvoir gérer en fait ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Merci beaucoup, Jean de Ouacha, pour votre intervention. Nous allons lire ce message de Patrice qui se trouve ici à Kinshasa. Ces Congolais vivent dans des pays où ils ont une idée des devoirs des citoyens envers leur pays et des devoirs des gouvernants envers leurs gouvernés. Je pense qu'il faut écouter tout le monde et chercher des pistes de solutions. Karim de Butembo, c'est très regrettable de voir combien nos compatriotes continuent à ternir l'image de la RDC, surtout des Congolais. Nous sommes maintenant qualifiés de barbares. Tous ces comportements paraissent comme une vraie manipulation de la diaspora par certaines formations politiques. Que ces actes cessent, cherchons plutôt à aider le pouvoir en place à changer ce pays. Réellement, si nous aimons ce pays, nous ne pouvons jamais chercher à le salir davantage. Plutôt, nous devons le changer. La cohabitation et la cohésion nationale restent des vrais piliers de changement de mentalité. Ça, c'est l'avis de Karim, capitaine de Butembo. Il y a aussi l'avis de Fabrice Kamunga à Lubumbashi. Ce n'est pas bien ce que font nos frères de la diaspora. Il faudrait que les uns et les autres puissent savoir que nous ne voulons plus la violence ni la guerre, contrairement à ce qui se passe. Et notre second invité est déjà en ligne. Le temps que nous puissions remercier notre premier invité, il s'agissait de M. Luc Loutala. Nous lui disons merci pour la trentaine de minutes qu'il nous a accordées. Nous allons maintenant accueillir notre second invité. Bonjour, professeur Ngoma Binda.
Bonjour, madame.
Merci aussi de nous avoir accordé de votre temps pour ce petit échange avec nos auditeurs. Déjà, nous avons eu à écouter plusieurs avis, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Vous, en tant que politologue, quelle analyse vous faites de cette situation?
Madame, c'est essentiellement une crise de citoyenneté que nous constatons avec cette intolérance, ces manifestations d'agression, de refus de l'autre, de la différence, de la diversité d'opinion. C'est une crise de citoyenneté. Mmh. On peut bien voir ou penser que ceux qui manifestent font du civisme ou de la politique pour sauver leur pays, mais en fait, il y a beaucoup de carences à ces comportements qu'on veut citoyens ou carrément civilisés. Mm-hmm. La première chose, c'est que c'est l'intolérance. Et le propre de l'intolérance, c'est justement ne pas écouter l'autre et se pousser sur des violences. Je pense que il faut qu'on comprenne que dans une société civilisée, démocratique, il n'y a point de place pour la violence, même pas verbale, Et encore moins des violences physiques comme celles que nous constatons pour le moment.
Nous avons eu des auditeurs, professeurs, qui estiment que c'est peut-être par le fait que plusieurs fois il y a eu des manifestations pacifiques et il n'y a pas eu de changement, que maintenant ces personnes se livrent à la violence. Quel est votre point de vue?
Bon, je pense que quel que soit le problème, quelles que soient les misères politiques, économiques ou sociales, on ne peut pas se livrer à des violences sur des personnes physiques, et d'autant que souvent on se trompe de cible. La cible réelle, ce ne sont pas les acteurs qui partent là, les musiciens ou les acteurs politiques, comme... non, mais c'est le système que nous avons choisi de mettre en place. C'est peut-être cela. Donc, il y a une incompréhension ou une absence de lecture objective des réalités sur terrain qui amène à des frustrations, parfois exagérées, parfois aux extrêmes, allant jusqu'au fanatisme. Madame, d'ailleurs, je crois qu'en Europe, il faudrait, ou à l'étranger, il faudrait distinguer normalement trois catégories de personnes, de Congolais. Il y a ces Congolais qui sont partis pour leur bonne volonté, qui sont restés là-bas peut-être après des études, et qui sont bien assis, bien intégrés, bien à l'aise. Ceux-là assument leur responsabilité, leur citoyenneté, sans trop de problèmes. La deuxième catégorie, c'est cette catégorie des jeunes gens qui sont partis faire un peu la vie, chercher à faire la vie, se débrouiller, mais dont la vie économique reste précaire en Europe, qui ont des graves difficultés pour pouvoir survivre. Ce sont ce qu'on peut appeler des réfugiés économiques, mais il y a d'autres également qui sont bel et bien des réfugiés politiques, qui sont là pour des raisons que l'on connaît, notamment les gens qui n'ont jamais accepté que la Deuxième République ait été écartée. Voyez, donc, chacune de ces catégories a ses raisons de pouvoir manifester soit violemment, et surtout les deux dernières catégories, pratiquement ethnico-politiques ou de réfugiés économiques, là, ils ont leurs raisons de pouvoir manifester une sorte d'intolérance face à ceux qui gèrent actuellement. Mais je crois que là, c'est parce qu'il y a manque précisément de moralité citoyenne. Je crois que la moralité citoyenne demande qu'on ait une intelligence objective des réalités. Quand on fait quelque chose, on doit pouvoir avoir la capacité de reconnaître qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est pas parfait, mais on avance. La deuxième chose qu'ils doivent avoir, c'est la maturité humaine. Madame, nous constatons que lorsqu'on manque de maturité simplement humaine, on arrive à des comportements immoraux, à des comportements socialement inacceptables, au libre cours des émotions, des frustrations, des pulsions, et de manière violente. Là, c'est le fait d'un manque de maturité humaine. Et la troisième chose, c'est tout cela, le manque de maturité physique qui consiste à aimer correctement sa patrie. C'est pas par la violence qu'on manifeste l'amour de la patrie, c'est pas par le refus de l'autre qu'on manifeste le refus, l'amour de la patrie, c'est faux. Donc je crois qu'il y a une éducation à faire de la part de nos compatriotes.
Oui, professeur, nous allons revenir à vous, parce que vous estimez qu'avec la violence, ce sera assez difficile de pouvoir changer certaines choses. Nous allons écouter d'abord Mao de Lubumbashi, lui, Mbujima, et puis aussi lire d'autres messages de nos auditeurs, tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Mao, bonjour. Bonjour Mao.
Oui, bonjour madame.
Oui, de Lubumbashi, quelle est votre lecture?
Ah oui, bien sûr, c'est vraiment déplorable. Hein. Bon, je ne condamne pas les Congolais de la diaspora, mais plutôt le gouvernement. Vous savez madame, lorsque dans une maison les enfants se soulèvent parce que leur père ne fait pas quelque chose de bien, le père ne peut pas tout faire pour qu'il puisse écarter ses enfants ou bien qu'il puisse les punir, mais plutôt les écouter. Et moi, je pourrais demander au gouvernement c'est quoi, qu'il puisse appeler les Congolais de la diaspora et leur demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'ils doivent d'abord tout fait pour que ces gens puissent trouver une satisfaction afin que ces violences puissent prendre fin. Parce que, vous savez, madame, ces choses-là vont très loin. Parce que aujourd'hui, c'est le matisse, je ne vous cache pas, ça parle un peu de tribalisme. Parce que aujourd'hui, une dame qui m'a dit que ceux qui sont en train de faire ça en Europe, ce sont des gens d'une province qui ne veulent pas tout. Mais vous savez, lorsque ces gens-là vont apprendre que ce sont des gens de telle province, et ces gens-là, eux aussi voudront réagir, parce que ce ne sont pas eux, c'est l'ensemble des Congolais qui sont à l'étranger. Et donc, ça, on va passer au massacre, peut-être ici.
S'il vous plaît, Mao, est-ce que vous pensez vraiment sur un fondement lorsqu'on voudrait faire introduire un problème d'ethnie ou de tribalisme dans ce genre de situation, parce qu'une seule province ne peut pas se retrouver dans tous ces pays?
Oui, madame, vous savez, notre population est vraiment analphabète. Je pense que ce sont les gens de cette province. Moi, je ne suis pas de cette province-là. Moi, je suis du Kivu. J'habite à Lubumbashi. Mais je vous dis qu'à Lubumbashi, c'est grave. Les aspects de tribalisme, vous savez, vous-même, les Katangais et les restes, ceux qui ne viennent pas là-bas, je ne peux pas vraiment les citer. Mais, madame, je vous dis que ça prend cette affaire. C'est vous qu'on a adressé les samedis. C'est une jeune personnalité katangaise. Vous savez ce qu'il s'appelle donné. Donc, si le gouvernement puisse vraiment prendre toutes les précautions possibles pour qu'il puisse arrêter ça à ce niveau-là.
Merci beaucoup, Mao. Donc, pour vous, ça risque de prendre une connotation de tribalisme, mais ça se fera quand même. Ce sont vos craintes, mais que ça, c'est difficile parce que les originaires d'une seule province ne peuvent pas se retrouver dans tous les pays où on constate ces agressions. Mais normalement, c'est votre crainte pour que cela ne puisse pas se répercuter au niveau de la RDC. Oui, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes en Bougimain, nous vous écoutons.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je vais tout droit d'abord, selon mes analyses, pour mettre fin un peu à tout ce phénomène. Je vois qu'on ne peut pas d'abord tout droit attaquer à la fièvre, parce que tout ce phénomène-là, ce n'est qu'une fièvre qui se manifeste. Mais nous devons d'abord attaquer les symptômes. Le problème, c'est quoi? C'est notre gouvernement. Alors, comme solution, notre gouvernement doit attentivement entendre et écouter les messages que la diaspora congolaise est en train de poser et comprendre ses sentiments de manière d'envisager différentes questions entre les deux parties de notre pays. Et bien entendu, l'opposition et la majorité. Et la deuxième des choses, c'est d'établir un dialogue, une bonne communication entre l'opposition et la majorité présidentielle. Donc, la communication pacifique ou dialogue est un élément primordial dans la résolution des conflits.
Merci, Louis de Mbujimaï. Fabrice Kamunga de Lubumbashi, ce n'est pas bien ce que font nos frères de la diaspora. Il faudrait que les choses puissent changer. Jérôme de Kinshasa, je crois qu'on doit bien analyser le problème, ne pas le minimiser. Il faut en urgence un dialogue avec les Congolais de la diaspora. Si je dois me mettre à leur place, comment justifiez-vous qu'un Congolais vivant en Europe paye plus que les étrangers en ce qui concerne le dédouanement? Les Congolais ne sont pas considérés sous d'autres cieux. Deuxièmement, sur le marché de l'emploi au niveau du pays, les étrangers sont privilégiés en lieu en place des fils du pays. Les dirigeants doivent changer leur façon de voir les choses. Hugues de Lubumbashi, de mon côté, je souhaiterais que les pays occidentaux expulsent tous les combattants, donc tous ces militants, pris en flagrance vers la RDC par une sanction exemplaire. Nous sommes conscients que ces militants bénéficient du soutien de certaines formations politiques. Cette voie est-elle légale pour amener ce gouvernement à la déchéance? Voilà les préoccupations, aussi l'avis de Hugues qui se trouve à Lubumbashi. Et nous cheminons petit à petit vers la fin de cette émission qui était essentiellement consacrée à ce phénomène qui est en train d'être constaté à l'étranger où les Congolais en séjour à l'étranger sont victimes d'agressions. Des témoins rapportent qu'il ne s'agit plus seulement des personnalités publiques ou leurs proches, mais également des cercles citoyens soupçonnés de soutenir le pouvoir en place. Selon les témoignages de certaines personnes agressées ou des associations qui revendiquent certaines attaques, les affaires s'insurgent contre la gestion des affaires de l'État en RDC. La question centrale était, quelle est votre réaction face à cette situation? Et pour l'instant, nous avons notre second invité, c'est le professeur Ngoma Binda, qui est politologue, et nous allons tout de suite lui accorder la parole pour une conclusion à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Professeur Binda, encore une dernière série d'auditeurs que vous avez suivis. Les avis, encore une fois, sont partagés. Mais dites-nous, c'est vrai que cette situation, c'est un problème quand même sécuritaire qui est posé. Donc, pour l'instant, plusieurs Congolais se posent plusieurs questions avant de se rendre à l'étranger. C'est assez compliqué. Sur le plan politique, à votre avis, quelle est notre piste de solution qui peut exister? Parce que déjà, nous constatons que pour les officiels, ils sont obligés de déjà informer de leur visite pour recevoir une sécurité du pays hôte. Mais maintenant, pour les simples citoyens qui peuvent être confondus avec des personnes qui soutiennent le pouvoir, sur le plan politique, comment est-ce que cela peut être réglé?
Madame, sur le plan politique, c'est extrêmement difficile. On a pensé à un dialogue, c'est-à-dire en fait à une sorte de moralisation des Congolais et de l'étranger, mais cela également est difficile dans la mesure où déjà ils n'acceptent pas les ambassadeurs qui sont envoyés dans ces pays respectifs où ils vivent. Ils les acceptent très très difficilement. J'ai été en Belgique, j'ai été en France, et même aux États-Unis, j'ai constaté que beaucoup de jeunes gens, soi-disant opposants, n'aiment pas du tout fréquenter l'ambassade. Donc ce sera sincèrement difficile de pouvoir engager un dialogue avec eux, d'autant que d'ailleurs, comme l'a dit le premier invité, c'est beaucoup de gens à l'étranger, et pour pouvoir les rassembler, ce n'est pas facile. Je crois que ce qu'il faudrait faire, beaucoup plus, c'est de pouvoir solliciter auprès de pays hôtes, de nos Congolais de l'étranger, de pouvoir concevoir des mécanismes, des règles de comportement requis, de les apprendre à nos Congolais qui sont là-bas, et si nécessaire, également, quelqu'un l'a dit, en cas de déviance, il faut sanctionner sévèrement, jusqu'à les retourner au pays, parce que dans tous les pays civilisés, les opposants ou n'importe quel citoyen n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, les opposants politiques n'ont pas normalement le droit de pouvoir mener des activités politiques qui de nature à déranger leur pays d'origine. Donc là, je crois que c'est une piste. Il faut qu'on dialogue avec les pays d'accueil pour qu'ils conçoivent des mécanismes d'éducation civique, peut-être passer par les ambassades.
Mais aussi,
évidemment, du côté du pouvoir, évidemment, il faut renforcer les efforts à pouvoir développer le pays, à pouvoir construire, créer des emplois, à pouvoir respecter l'intégrité morale vis-à-vis des finances, de la gestion des biens de l'État. Cela donne finalement de l'estime, de la fierté, de la confiance dans les efforts qui sont fournis. Mmh. Si cela est fait, on peut voir que notre pays peut présenter un autre visage physiquement, parce que quand on est à l'étranger, on a honte de notre pays. Quand il patauge, quand il y a toujours de la misère, quand il y a des violences sexuelles et tout cela. Donc, c'est cela qui finalement frustre parfois les Congolais de l'étranger. Donc, le gouvernement doit faire
beaucoup d'efforts dans ce sens-là pour que précisément ceux qui sont à l'étranger soient fiers d'être congolais.
En tout cas, merci beaucoup, professeur Ngoma Binda. Je rappelle que vous êtes politologue, vous avez donné votre point de vue aussi, commenté les avis des auditeurs. Nous en profitons pour encore une fois remercier notre premier invité, c'est monsieur Luc Lutala, qui est expert en résolution des conflits. Nous remercions également tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus ou ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention, que ce soit en FM ou connecté sur www.radiocapi.net. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Nous parlerons des routes de desserte agricole, ces routes d'une grande importance pour l'acheminement des produits agricoles ou encore des produits manufacturés de première nécessité. Quelle est la situation chez vous? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net ou en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs, la page qui porte le logo de Radio Capi. Merci à Pierrot Lamégi, merci à Clovis Oboula, merci à Alain Goy, sans oublier Nicole Ngaka qui a supervisé l'émission. Restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.